Bonsoir à tous. Le coronavirus en Italie, la majeure partie nord du pays et 15 millions de personnes placées en quarantaine. Décision difficile à appliquer. Dans un instant, Bruce de Galzin, notre correspondant en Italie. Chez nous, 1126 cas de contamination confirmés ce soir. 177 cas de plus en 24 heures. Un conseil de défense doit se réunir à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Conséquence de cette crise sanitaire dans le secteur du tourisme, l'Europe a perdu 1 milliard d'euros par mois depuis janvier. Chiffre communiqué par le commissaire européen Thierry Breton, qui était l'invité de France Inter dans Questions politiques. La journée internationale des droits des femmes, des heurts avec la police lors d'une marche féministe hier soir à Paris. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État, se dit choquée et demande des explications au ministre de l'Intérieur. Nous l'écouterons. Roman Polanski n'est pas coupable aux yeux de la justice. Des avocates pénalistes défendent la présomption d'innocence en publiant une tribune sur le site du Monde.fr. Après ce journal, bien sûr, Intersport avec Jérôme Val. Le rugby, le tournoi des Six Nations, pas de grand chelem pour la France, battu par l'Écosse 28 à 17 cet après-midi à Édimbourg. La course au podium en Ligue 1 de football. Lyon est à Lille ce soir et doit ramener des points pour éviter d'être distancé au classement. Martin Fourcade, qui a perdu gros aujourd'hui en biathlon dans la Mastart à Nové Mesto en République tchèque.
France Inter.
L'Italie, c'est le pays européen le plus durement frappé par l'épidémie de coronavirus avec plus de 5800 cas et 366 décès. 133 personnes sont mortes ces dernières 24 heures. Conséquence, un quart de la population italienne s'est réveillée ce matin en quarantaine. Mesure sans précédent en Europe décidée par le gouvernement de Giuseppe Conte pour endiguer l'épidémie. Des mesures exceptionnelles de confinement. Elles couvrent une vaste zone dans le nord du pays allant de Milan à Venise. Plus de 15 millions d'Italiens dans cette zone rouge voient leurs déplacements strictement limités. L'application de ces restrictions se fait avec des difficultés. Il faut éviter la panique. À Rome, Bruce de Galzin.
Interdiction de sortir, de rentrer et même de se déplacer, les Italiens confinés ne savent pas vraiment à quoi s'en tenir. Le président de la région Lombardie, Attilio Fontana, a tenu à rassurer. Il sera possible de se rendre à son travail, mais si l'on peut, il vaut mieux éviter. Éviter aussi la panique, c'est ce que cherche Attilio Fontana.
Les supermarchés seront toujours pleins et approvisionnés. Nous ne sommes pas en temps de guerre, nous sommes en lutte. Nous tous les citoyens, pour stopper la contagion d'une maladie qui n'est pas grave, mais qui a des conséquences.
Des conséquences concrètes en Lombardie où tous les lits en soins intensifs sont désormais réservés aux malades du coronavirus. Les autres malades sont envoyés dans d'autres régions. La Vénétie, c'est d'ailleurs dit prête à les accueillir s'il y a de la place, mais le président de la Vénétie estime lui que les mesures sont disproportionnées. Luca Zaia dit ne pas savoir comment les appliquer.
Je suis convaincu aujourd'hui qu'il fallait un décret, mais un décret qui dise de manière plus claire que l'on doit éviter les rassemblements sur les places. Et puis ce décret est compliqué à interpréter. En l'état, c'est difficile de donner des réponses aux citoyens.
Et le président de la Vénétie s'inquiète pour les conséquences économiques sur le tourisme notamment. À Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Quelle est l'atmosphère à Milan, placée en quarantaine? Voici le témoignage d'une Française qui vit dans la capitale économique de l'Italie, Marie-Astrid Roy. Elle ressent une forte inquiétude, une ville au ralenti.
On sent une atmosphère très lourde et vraiment de panique. Hein, parce que moi, je suis assez près de la gare centrale. Il y a beaucoup d'habitants qui ont vraiment tenté de fuir, surtout donc des habitants qui viennent du sud de l'Italie et qui se sont embarqués dans les derniers trains qui allaient vers le sud de l'Italie. Je crois qu'on parle de 500 voyageurs. Donc oui, l'impression de panique. Et puis on la voit aussi après dans les supermarchés pris d'assaut. Je suis pas inquiète par le virus en lui-même. Je suis plutôt rassurée par ces mesures prises par le gouvernement, même si elles sont très, très handicapantes. Des mesures aussi drastiques, non, c'était assez inattendu. Déjà, ça faisait plusieurs jours que des hôtels commencent à fermer. Donc, ça aussi, c'est très impressionnant. Voilà, donc la ville était déjà endormie et enfin, très au ralenti. Et là, elle va être complètement endormie.
Propos recueillis par Sarah Calamand de France Info. Au niveau national, en Italie, les discothèques, musées, théâtres, cinémas doivent fermer. Le ministre italien des Sports appelle à suspendre le championnat national de football. Et on apprend ce soir que l'Italie va acheter acheté 22 millions de masques. Dans le monde, on compte ce soir 109 000 cas d'infection dans 99 pays. 3 700 personnes sont mortes. Chez nous, en France, la barre symbolique du millier de contaminations est largement dépassée. 1 126 personnes contaminées, 177 cas de plus en 24 heures et au total 19 décès depuis le début de la propagation du virus. Emmanuel Macron réunit un conseil de défense sur la crise du coronavirus à l'Élysée ce soir. Nous sommes toujours au stade 2 de l'état d'alerte, mais le passage au stade 3, qui prévoit davantage de restrictions, est inéluctable. Tous les établissements scolaires d'Ajaccio seront fermés pendant 2 semaines. 23 contaminations ont été détectées dans la ville. Dans le Haut-Rhin aussi, les écoles seront fermées à partir de demain pendant 2 semaines. Le gouvernement allemand, de son côté, demande l'annulation des événements de plus de 1000 personnes. Aux États-Unis, qui comptent au moins 19 morts sur plus de 400 cas, l'État de New York a instauré l'état d'urgence. Et puis le navire de croisière américain Grand Princess, bloqué au large de San Francisco avec 21 cas, a été autorisé à accoster et commencera demain à débarquer des passagers ayant besoin de soins. Enfin, en Égypte, un bateau de croisière avec 171 passagers, dont 101 touristes étrangers, a été évacué à Luxor après la découverte de 45 cas de contamination. Alors, peut-on déjà mesurer l'ampleur économique de cette crise sanitaire en Europe ? Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, était l'invité de Questions politiques à la mi-journée sur France Inter. Dans le secteur du tourisme, il fait un premier bilan des pertes.
C'est beaucoup trop tôt pour qualifier l'ampleur économique. En revanche, il va évidemment y avoir un impact économique. Et il se trouve que les touristes chinois, c'est la troisième population qui vient visiter l'Europe. Donc, évidemment, depuis janvier-février, c'était totalement à l'arrêt. C'est pour l'ensemble de l'industrie européenne 2 millions de nuitées en moins. 2 millions de nuitées, c'est 1 milliard par mois de revenus qui sont perdus pour le tourisme uniquement à cause du fait que les touristes chinois ne viennent plus. Vous avez ensuite tout ce qui est associé au tourisme, bien entendu, le transport, les autocaristes. Donc derrière ça, c'est un secteur qui est évidemment qu'on suit avec beaucoup d'attention. Ma préoccupation la plus immédiate, c'est évidemment le fait que les petites entreprises puissent passer ce cap. Le but de l'action commune qui est la nôtre, c'est qu'on veille à ce que les États membres et tous ceux qui contribuent précisément à cet écosystème puissent aider les PME qui vont commencer à avoir pour certaines d'entre elles des problèmes de trésorerie. Alors,
Thierry Breton, le commissaire européen sur France Inter à la mi-journée. En Israël, on compte 25 cas de coronavirus. Plusieurs milliers de personnes sont en confinement. Les mesures sont très strictes. Les entrées en Israël des Italiens, Français, Allemands, Autrichiens, Suisses, Chinois et ressortissants d'autres pays d'Asie sont tout simplement interdites. Les binationaux, eux, ou les résidents en Israël sont soumis à 14 jours de confinement à leur arrivée dans le pays. En revanche, aucune mesure ne concerne les personnes venues des États-Unis. Frédéric Mettezo est notre correspondant à Jérusalem. Il est en direct avec nous ce soir. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir à tous.
Pas de restrictions pour ceux qui viennent des États-Unis. Ça fait débat en Israël.
Et oui, Israël peut-il couper le cordon avec l'ami, allié et protecteur américain ? Hier soir, le directeur général du ministère de la Santé affirmait que des mesures unilatérales de confinement seraient mises en place pour les voyageurs arrivant des États-Unis. Mais aujourd'hui, aucune annonce officielle. Le ministre du Tourisme explique que tout sera fait en coopération avec les Américains, car cette décision aurait un impact important à l'intérieur des États-Unis. Le premier ministre Netanyahou, cet après-midi, a téléphoné au vice-président Mike Pence pour faire le point. Il n'avait pas fait ça avec les dirigeants européens, mais là, c'est obligé tant les relations politiques, diplomatiques, économiques, militaires et culturelles sont soutenues entre les deux pays. Selon plusieurs médias israéliens, l'entourage du Premier ministre fait pression sur le ministère de la Santé pour ne pas mettre en place des mesures trop contraignantes avec l'Amérique. Et en même temps, Netanyahou parle d'une pandémie globale, du jamais vu depuis 100 ans. Israël va donc y réfléchir à deux fois, d'autant qu'il envisage aussi de boucler totalement la Cisjordanie pour raisons sanitaires. Le ministre israélien de la Sécurité intérieure envisage de déclarer l'état d'urgence. On attend des annonces fortes demain. Pierre.
Frédéric Mettezo en direct à Jérusalem.
France Inter. Pierre Veille.
La journée internationale des droits des femmes, c'était aujourd'hui avec des manifestations à Paris et dans plusieurs villes de France pour réclamer l'égalité des salaires avec les hommes, la fin des violences sexuelles et toutes les formes de harcèlement. Qui fait la vaisselle ? Nous, on fait la révolution. Quand une femme dit non, c'est non. Le silence tue, agissons. Voilà ce qu'on pouvait lire sur les pancartes dans le défilé parisien qui a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes. Défilé aussi à Rennes, Lyon, Strasbourg et Montpellier. 3000 manifestantes, parmi elles, Nicole. Elle a 67 ans. Elle voit une évolution dans les combats des femmes au fil des années et elle s'inquiète face à la montée des violences.
Il faut remettre le métier sur l'ouvrage. On a plein de droits à revendiquer, notamment par rapport à l'IVG qui est en train de régresser un peu partout dans le monde et même en Europe. Nous, nos luttes, elles étaient plus... presque bon enfant par rapport à l'heure actuelle. On était plus sur un problème d'égalité, de contraception, d'IVG, que sur un problème de violence. Et maintenant, je pense que la thématique, elle est autour de la violence, et c'est ça qui est inquiétant, je trouve. C'est le corps là, qui est directement en confrontation directe, je trouve, là, plus sévèrement qu'il y a 40 ans. Il y a 40 ans, nous, notre corps, il était en lien avec l'IVG, avec tout ça, pas forcément avec la violence. Alors que maintenant, je trouve qu'il y a une crainte, une méfiance. Je ne dis pas qu'on rentrait à minuit, 2h du matin, tranquillement non plus pour autant, parce qu'il y a toujours cette peur-là. Mais je trouve qu'elle était à la limite presque ponctuelle, la nuit et tout le jour, à la limite on nous foutait la paix. Quoi. Maintenant c'est presque tout le temps, 24 heures sur 24.
Voilà, une manifestante à Montpellier, propos recueillis par Elena Loison de France Bleu Héros. Des photos, des manifestations aujourd'hui, en cette journée internationale des droits des femmes sur France Inter. Et puis des personnalités politiques et des associations féministes dénoncent des violences policières en marge d'une manifestation de femmes hier soir à Paris, place de la République. Au total, 9 personnes ont été interpellées et 7 placées en garde à vue. Le ministre de l'Intérieur a demandé à la préfecture de police de Paris un rapport sur cette manifestation. De nombreuses vidéos ont été postées sur les réseaux sociaux montrant par exemple les manifestantes chanter face à des CRS tentant de les contenir avec leurs boucliers. Sur une autre vidéo, on voit les forces de l'ordre obligeant les manifestantes à entrer dans une bouche de métro en les traînant violemment sur les marches. Voici la réaction prudente de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, avec Catherine Potier.
Moi, j'ai échangé juste après avoir découvert ces images avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Peut-être pour remettre du contexte, parce que c'est important, rappeler que c'était une marche féministe, anticapitaliste, nocturne, qui avait vocation à se réapproprier l'espace public de nuit. D'une part, je crois que c'est important de le rappeler. Et effectivement, nous avons vu ces vidéos sur les réseaux sociaux où des femmes sont bousculées et certaines molestées, et particulièrement des jeunes femmes. Donc moi, j'ai trouvé ces images choquantes, mais
par des gendarmes
plus exactement. J'ai trouvé ces images choquantes, mais je souhaite avoir le contexte, en savoir plus. Et le ministre de l'Intérieur lui-même a fait savoir qu'il avait demandé un rapport. Je voudrais rappeler, parce que c'est important, que à mes yeux, le lien de confiance entre les femmes et les forces de l'ordre, il est primordial. Moi, je m'attache à faire en sorte que ce lien de confiance, il puisse perdurer.
Après ces incidents hier soir à Paris, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est dite choquée par, je la cite, des violences inadmissibles et incompréhensibles. Plus d'une centaine d'avocates pénalistes interviennent dans la polémique concernant le César attribué à Roman Polanski. Elle publie aujourd'hui une tribune sur le site du Monde, monde.fr. Elle souligne le principe de respect de la présomption d'innocence, seul rempart efficace contre l'arbitraire, je cite le texte. Elle rappelle que Roman Polanski a fait l'objet de plusieurs accusations publiques, parmi lesquelles une seule plainte judiciaire qui n'a donné lieu à aucune poursuite. Il n'est donc pas coupable de ce qui lui est reproché, selon ses avocates. Écoutez ce qu'en dit une des signataires de cette tribune, Karine Bourdier, avocate au barreau de Paris, interrogée par Ariane Grissel.
Les mouvements de l'opinion publique se traduisent d'une façon ou d'une autre, à certains moments donnés, dans les enceintes judiciaires. Si à un moment donné, le but, c'est de pouvoir penser que l'on pourrait se passer de la démonstration de la culpabilité pour dire tel homme est coupable et peu importe qu'on n'ait pas réussi à le démontrer, telle personne est coupable et on foule au pied la présomption d'innocence à laquelle il a droit, comme tout citoyen de ce pays, dans ces cas-là, à mon avis, c'est un danger majeur pour notre société. Cette tribune n'est absolument pas une tribune d'avocates qui n'interviendrait qu'en défense. Mais le rôle de ces avocates, et c'est là qu'est peut-être l'intérêt de cette prise de parole, quand elles accompagnent des victimes, c'est aussi de leur rappeler et c'est aussi de leur expliquer à quel point ces règles dont nous parlons sont majeures pour toutes et pour tous. Et que si l'on décide de s'en passer, de les sacrifier, en réalité, c'est un monde arbitraire complètement que nous allons construire.
Karine Bourdier, avocate au barreau de Paris, qui a signé cette tribune qui rappelle l'importance de la présomption d'innocence. Vous aimez les livres et la lecture, vous pouvez encore faire partie du jury qui décernera le 8 juin prochain le 46e prix du Livre Inter. Le président cette année, c'est Philippe Lançon, l'auteur du Lambeau. Alors là, c'est le dernier week-end, vous avez jusqu'au 10 mars minuit pour nous écrire, soit par mail sur franceinter.fr ou par courrier France Inter, prix du Livre Inter, 116 avenue du président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Écrivez-nous, dites-nous pourquoi vous aimez la lecture, pourquoi vous aimez la littérature, et vous serez peut-être choisi membre du jury du Livre Inter. Les conditions de circulation, on va aller au PC Mobilité retrouver Maïwenn Bordron. Bonsoir Maïwenn.
Bonsoir.
Pas mal d'accidents ce soir, hein?
Oui, un peu partout en France, sur l'A61 entre Narbonne et Toulouse, à hauteur de Boutenac, deux voies sont neutralisées. Sur la rocade de Bordeaux, à Villeneuve-d'Ornon, collision entre une voiture et un poids lourd, une voie est également neutralisée. Et puis en région parisienne, collision impliquant trois voitures sur l'A13 entre Orgeval et la forêt de Marly, une voie est fermée à droite. Sur l'A86 intérieure entre Fresnes et Antony, et puis autre accident sur la Nationale 118 en direction de Paris, à hauteur de Meudon.
Merci Maïwenn. Le temps demain ?
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Et voici Jean-Michel Golinski de Météo France.
Une semaine qui s'annonce encore sous le signe d'un arrosage copieux sur les deux tiers nord du pays. Avantage, les températures dans cette aire océanique vont rester clémentes. La première perturbation de la semaine va toucher demain soir la pointe bretonne. D'ici là, c'est un régime d'averse qui va survoler la quasi-totalité du pays. En fait, seules les régions méditerranéennes et la vallée du Rhône vont profiter d'un temps sec et plutôt bien ensoleillé, mais avec un mistral et une tramontane très turbulent à près de 100 km à l'heure. Du vent fort également à prévoir sur la Corse et sur la chaîne des Pyrénées. Les averses assez fréquentes ce lundi dans l'ensemble seront de pluie en plaine et de neige sur tous les massifs à relativement basse altitude, à partir de 900 mètres en moyenne. Les températures, sans geler la nuit, vont en journée légèrement décrocher par rapport à aujourd'hui, avant de remonter sensiblement à partir de mardi.
Jean-Michel Golinski de Météo France. Et maintenant, l'actualité sportive. Intersport avec Jérôme Val. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir Pierre.
D'abord, dans le tournoi des Six Nations de rugby, c'est ce qui s'appelle redescendre sur terre pour le 15 de France.
Oui, les Bleus sur un nuage depuis trois matchs invaincus, mais qui sont donc tombés sur la pelouse de Murrayfield en Écosse. Défaite 28 à 17. Bonsoir Vincent Pellegrini.
Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous.
En direct depuis Édimbourg. Vincent, on a été loin, très loin du niveau affiché depuis le début de la compétition pour ces Bleus.
Oui, dès les premières minutes de cette rencontre, rien n'a fonctionné effectivement comme prévu. Il y a eu le carton jaune de François Kroos dès les premières minutes et puis bien évidemment le carton rouge pour Mohamed Awas, auteur d'un coup de poing sur le visage d'un joueur écossais juste avant la mi-temps. Une expulsion suivie par un essai écossais. À la mi-temps, les Bleus étaient menés 14 à 7 et en deuxième mi-temps à 14 contre 15. Ils ont été impuissants, trop d'indiscipline, trop de maladresse. Bref, une équipe de France effectivement qui a réussi une performance bien en deçà de ce qu'elle avait montré depuis le début du tournoi.
Alors Vincent, pas de grand chelem donc pour les Bleus, ça c'est une certitude. Pour la victoire finale, c'est un match à 3 hein, qui va se jouer entre la France, l'Angleterre qui soit égalité de points et l'Irlande. Et même pas sûr Vincent qu'on ait le nom du vainqueur le week-end prochain.
C'est même très peu probable puisque les rencontres Irlande-Italie et Italie-Angleterre ont été reportées. Elles se joueront vraisemblablement cet automne, vraisemblablement au mois d'octobre, ce qui signifie qu'effectivement, quel que soit le résultat de France-Irlande samedi prochain, non seulement on ne connaîtra sûrement pas le vainqueur du tournoi, mais on ne connaîtra pas également sûrement le trio de tête. C'est donc un tournoi qui va s'achever de façon assez bizarre.
Effectivement, très bizarre. Merci beaucoup Vincent Pellegrini en direct pour France Inter depuis Édimbourg et ce stade de Murrayfield qui ne réussit donc toujours pas au bleu. Le football et la Ligue 1, deux matchs cet après-midi, un partout entre Saint-Etienne et Bordeaux. Rennes n'a pas fait de quartier contre Montpellier, victoire 5-0 sous le déluge. Les Bretons qui réagissent plutôt bien après leur élimination en demi-finale de la Coupe de France cette semaine.
Jérôme, le dernier rendez-vous de cette 28e journée va opposer ce soir deux prétendants au podium en fin de saison.
Lille contre Lyon, deux équipes qui pour l'instant ne sont pas dans les clous, notamment Lyon qui a désormais 10 points de retard sur la troisième place occupée par Rennes, loin des objectifs affichés par le club. Bonsoir Cédric Guillou.
Bonsoir Jérôme.
Depuis Lille dans le Nord et ce stade Pierre-Mauroy. Alors commençons Cédric par Lille qui veut retrouver le parfum européen découvert cette année.
Oui, Lille qui a l'avantage pour l'instant par rapport à l'Olympique Lyonnais, quatrième du classement, 6 points d'avance sur Lyon, et on va l'entendre, un coach Christophe Galtier qui veut continuer à se battre jusqu'au bout pour le podium. Lille qui compte, à l'heure où l'on parle, Jérôme, 4 points de retard sur Rennes avant le match de ce soir.
Nos derniers matchs ont été intéressants contre des adversaires, tout en les respectant, qui n'ont pas le niveau de l'OL. Si on veut continuer à se battre pour le podium, il faudra que l'on soit à un top niveau.
Alors maintenant, Lyon, Cédric, il n'y a plus trop de temps à perdre pour l'OL qui, s'ils veulent décrocher ces Lyonnais, le wagon de la Ligue des Champions.
Oui, parce qu'en cas de défaite, ce serait très très compliqué pour les Lyonnais de revenir sur Lille et de rêver de podium. Vous le disiez à l'instant, 10 points de retard sur Rennes actuellement. Il faut donc gagner pour l'Olympique Lyonnais. Mais les Lyonnais vont aussi devoir se remettre de la lourde défaite concédée mercredi soir en Coupe de France contre le Paris Saint-Germain pour aborder au mieux ce déplacement dans le Nord. Le milieu de terrain lyonnais, Oussem Aouar.
C'est vrai qu'après le match, c'était très compliqué pour nous, surtout dans la tête. En tout cas, on va essayer d'oublier. En tout cas, c'est déjà fait pour la plupart des joueurs. Donc forcément, on va se concentrer sur le prochain match qui est pour moi d'une importance capitale.
Merci Cédric Guillou pour ce match qui va démarrer donc à 21h ce soir depuis le stade de Villeneuve-d'Ascq qui exceptionnellement a ouvert son toit. Vous devinez pourquoi ? Ben pour éviter d'être dans la règle des 5000 personnes dans un endroit confiné dans le contexte de cette crise du coronavirus. Crise que vit de plein fouet le nord de l'Italie. Vous en avez parlé, Pierre, dans votre journal. Le ministre des Sports qui a demandé la suspension du championnat en vain pour l'instant, puisque la 26e journée a bien eu lieu tout à l'heure à huis clos, à la grande colère d'ailleurs de Mario Balotelli, l'attaquant de Brescia passé par Nice et l'OM qui a fustigé le maintien de ces matchs. Tout ça pourquoi, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, pour divertir quelqu'un ou pour ne pas faire perdre d'argent? Arrêtez de rigoler, reprenez-vous. On ne rigole pas avec la santé, selon Balotelli.
Et le coronavirus qui a aussi perturbé, Jérôme, le départ de Paris-Nice, le premier grand rendez-vous du cyclisme en France.
Un départ donné depuis Plaisir dans les Yvelines avec un public tenu à distance pour éviter tout contact avec les coureurs. Reportage d'Antoine Martin.
Interdiction d'approcher les coureurs, périmètre de sécurité autour des bus des équipes, une grande première pour ce Paris-Nice, d'habitude si proche de son public.
L'année dernière à Saint-Germain, on pouvait le faire, et là, vraiment, c'est un peu dommage. Hein. On est à distance, oui, on est maintenu à distance.
C'était une très belle opportunité, on habite à Plaisir, donc on a vécu.
Il y a quand même une distance de sécurité, mais on ne les touche pas. Quoi.
D'habitude, on peut vraiment s'approcher d'eux, parler même, demander des autographes, des selfies, leur serrer la main si on voulait. C'est vraiment un bon enfant, alors que là, c'est un peu compliqué. Quoi.
Néanmoins, cela n'a pas freiné la ferveur au village départ, dans des conditions météo difficiles. De l'autre côté des barrières, Vincent Lavenue, manager d'AG2R La Mondiale, comprend la déception des spectateurs.
Oui, c'est comme ça, ce sont les consignes. Hein, donc on est obligé de s'adapter aux recommandations de la santé publique pour ne pas véhiculer ce virus plus que ce qu'il le faudrait, mais c'est comme ça. Je crois que tout le monde a bien compris la situation. Donc c'est vrai que ça enlève un charme à notre sport, hein, la proximité du public auprès des coureurs ou autres, c'est quand même un vrai atout, mais voilà, bon, on espère que ça ne durera qu'un temps.
Si Paris-Nice est bien lancé depuis ce matin, Paris-Roubaix doit s'élancer de Compiègne dans l'Oise le 12 avril prochain.
Et la première étape autour de Plaisir de ce Paris-Nice a été remportée par l'Allemand Maximilien Sachmann. Le Français Julian Alaphilippe termine quatrième. Et dans ce contexte de crise sanitaire, certains directeurs techniques nationaux, les fameux DTN, se sont envolés aujourd'hui pour le Japon. Ils vont aller visiter les installations olympiques à 4 mois des Jeux de Tokyo. Mais il sera aussi, vous en doutez, beaucoup question de virus et de santé des athlètes. Philippe Bana, le représentant des DTN tricolores, veut les rassurer.
En ce moment, ils sont plutôt inquiets de ce qui est en train de se passer sur la limitation des événements, les tournois de qualification olympique, est-ce que tout va bien se passer, est-ce que le coronavirus va avoir raison de certains événements ou pas. Là aussi, la ministre nous a rassurés jusqu'à présent et à ce stade, les limitations sont en vigueur. Il faut aussi rassurer les gens, rassurer les athlètes. La vie continue, l'olympisme continue, le sport continue. En allant là-bas, en ramenant les photos, les témoignages, les règles, les fonctionnements, on rassure tout le monde.
Voilà, rassuré, hein, Pierre, c'est un peu le mot à la mode en ce moment.
Intersport, c'est avec Jérôme Val. Jérôme, Martin Fourcade a perdu très gros sur les pistes de Nové Mesto en République tchèque.
Le quintuple champion olympique de biathlon n'a terminé que 14e de la mass start aujourd'hui. La faute notamment à des soucis de fartage sur ses skis, des skis qui ne glissaient plus. Et du coup, dans la course au gros globe, globe de cristal. Il reste en tête du classement général, mais laisse son rival, le Norvégien Johannes Bø, vainqueur cet après-midi, revenir sur ses talons. Bref, mauvais week-end pour Fourcade.
C'est pas un bon week-end sur le plan comptable, ni sur le plan émotion, ni sur le plan performance. Donc voilà, c'est pas forcément je suis déçu et j'ai envie de penser à la suite. Après voilà, j'ai pas pleuré, hein, j'ai passé l'âge. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Il y a des fois où la réussite est un peu de notre côté. Ce week-end c'était pas le cas pour moi et j'espère que ça sera différent la semaine prochaine.
Et il reste maintenant 5 courses cette saison pour départager les deux hommes. Alors il y a quand même une bonne nouvelle cet après-midi. C'est la deuxième place d'Emilien Jacquelin dans cette Mass Start. Un résultat de tennis féminin avec la victoire dans le tournoi de Lyon de l'américaine Sofia Kenin, déjà titrée à Melbourne en début d'année. Elle s'impose en 3-7, 6-2, 4-6, 6-4 face à l'allemande Fritz Sam.
Oui, c'est la première édition de ce tournoi estampillé WTA. C'est le circuit, Jérôme, le circuit principal du haut niveau féminin.
Et les meilleures françaises étaient là, quelques autres joueuses de premier plan. Il fallait en profiter, Jean-Pierre Blimeau, parce que ces tournois WTA sont très rares en France.
À ce jour, il existe 3 tournois estampillés WTA en France, Roland-Garros, Strasbourg, situé juste avant le rendez-vous de la Porte d'Auteuil, et désormais Lyon, 6 ans après la disparition de l'Open Gaz de France disputé au Palais des Sports de Coubertin à Paris. 3 rendez-vous seulement, regrette la meilleure française du moment, Kristina Mladenovic.
J'adore le fait qu'on ait de nouveau un tournoi en plus parce que ça manque réellement. On est un très grand pays avec la culture du tennis et c'est vrai qu'on a Roland-Garros, c'est un grand chelem, mais à côté de ça, il y a très peu de tournois.
À Lyon, ce nouveau tournoi n'aurait pas existé sans la volonté et le coup de pouce financier de Caroline Garcia, qui a mis la main à la poche pour que sa ville de cœur accueille l'élite du tennis féminin. Il a fallu notamment racheter l'une des 2 dates disponibles, trouver des partenaires, un objectif réalisable ailleurs en France, mais la marge est étroite, poursuit Pascal Biojou, le directeur du tournoi.
Un tournoi s'insère dans un calendrier, c'est un élément d'un tout. Et je rappelle qu'il n'y a que 65 tournois WTA dans le monde, mais en tout cas, je crois qu'il y a des cartes à jouer, des places à prendre.
Car même si le circuit féminin est moins médiatisé que le masculin, la lutte est tout de même féroce pour s'accaparer des créneaux, constate Alizé Cornet, autre joueuse française.
L'Asie veut récupérer beaucoup de tournois féminins à l'heure actuelle. Du coup, c'est pas évident pour les tournois européens de se battre contre des entités aussi grosses que représentent les tournois chinois.
1,5 million d'euros ont été nécessaires pour faire démarrer le tournoi WTA de Lyon. L'objectif est maintenant de l'installer dans la durée.
Jérôme, on traverse l'Atlantique pour les États-Unis et le sport le plus populaire là-bas, le football américain.
Avec un championnat organisé de septembre à début février, comme on est aux États-Unis, eh bien, il fallait combler l'autre moitié de l'année avec la création d'une nouvelle ligue, la XFL, avec notamment de nouvelles règles. C'est un reportage aux États-Unis de Loïc Piala.
Imaginez un journaliste qui entrerait sur le terrain pour poser une question à Léo Messi juste après un but. C'est un peu ce que propose la XFL, sauf que s'exprimer dans le feu de l'action pose parfois problème, comme quand ce joueur de Seattle, fâché par une décision arbitrale, a lâché un gros mot en pleine interview.
On essaie de créer quelque chose et eux nous poussent pour faire notre putain de boulot.
Avec ses 15 milliards de dollars de revenus annuels, la toute-puissante NFL n'a rien à craindre de la concurrence. Au contraire, la XFL pourrait lui donner des idées. L'engagement, par exemple, une phase de jeu dangereuse avec des contacts violents, a été modifiée pour protéger les joueurs tout en restant spectaculaire. Oliver Luck, le patron de la XFL, mise aussi sur des matchs plus courts.
On a parlé avec des milliers de fans, fait des études marketing. Ils nous ont dit qu'ils adoraient le football américain. C'est le sport préféré du pays, on le sait, mais il prouve que ça traîne parfois en longueur. Augmentons un peu le rythme.
Mais les ligues du printemps ont tout échoué jusqu'ici. Donald Trump dans les années 80, la XFL déjà en 2001 et l'an dernier, l'AAF a fermé boutique avant même la fin de sa première saison, faute d'argent. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Et je vais terminer, Pierre, par un chiffre, 3315, comme le nombre impressionnant de victoires pour le jockey Christophe Soumillon. Il a battu cette semaine le précédent record, 3314, donc précédent record de succès détenu par la légende de ce sport, Yves Saint-Martin, jockey des années 60 aux années 80.
Jérôme Val présentait ce soir Intersport. Merci Jérôme.